des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Clotilde Sey dans le studio de Canal M qui produit l'émission « Des livres plein les oreilles » depuis 10 ans maintenant. On dit souvent qu'en France, tout finit par des chansons. Eh bien, cette semaine, tout va commencer par une chanson. Une mélodie, je vous l'avoue, c'est une mélodie qui me hante souvent et puis des voix aussi qui me hantent souvent, des voix chantées ou des voix parlées qui vont me ramener pour vous cette semaine, évidemment dans l'univers du livre audio, mais aussi dans l'univers littéraire et cinématographique de Marguerite Duras. Je pense à India Song, chantée par Jeanne Moreau, reprise par Léa Marie Fries, une Suissesse. Je pense au Vice-Consul, également de Marguerite Duras, lu par Michael Lonsdale. Et puis, je pense à L'amant, lu par Juliette Binoche. Mais d'abord, cette mélodie et surtout cette voix. La chanson tirée de Indiana Song, un film qui a été réalisé par Marguerite Duras elle-même. Et on a commencé avec ça. Vous savez que au départ, ce film est d'abord une pièce de théâtre. Pourquoi j'ai dit « vous savez » ? Peut-être que vous ne le savez pas, puis si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Quelle mauvaise habitude. Alors, c'est donc une pièce qui a été publiée pour la première fois en 1973. Cette pièce est elle-même inspirée d'un roman de Marguerite Duras qui s'appelle « Le vice-consul » qui a été publié quelques années plus tôt, en 1966. Sur ce nouvel écrit, elle reprend les mêmes thèmes, hein, les mêmes personnages que celui du film. C'est une histoire d'amour qui est vécue aux Indes dans les années 30. Anne-Marie Streeter est l'épouse de l'ambassadeur de France. C'est une femme à la fois fascinante et énigmatique, une femme qui attire de nombreux hommes, dont un vice-consul, le vice-consul de Lahore, qui est complètement fou d'elle. Et en toile de fond, il y a une deuxième histoire qui s'écrit, celle de l'horreur, de la famille, de la lèpre. Et c'est vraiment une ambiance suffocante à laquelle on va assister, avec au milieu cette histoire d'amour qui pourrait sembler comme un poumon de secours, là, mais qui ne le sera pas vraiment non plus. Indiana Song, donc, c'est elle qui l'a réalisée, cette œuvre-là, et c'est un cinéma expérimental. Hein. À l'époque, il y avait aucun dialogue. C'était vraiment un code narratif. Il y avait une narration derrière, et des images, et de la musique, mais aucun dialogue entre les personnages. Il y avait des gens qui adoraient ça, d'autres qui détestaient ça. Ce qui est certain, c'est que une des très belles voix du livre audio, aujourd'hui éteinte malheureusement, c'est celle de Michael Lonsdale, qu'on va entendre dans un extrait du livre audio, Le Vice-Consul, donc du roman en fait, Le Vice-Consul de Marguerite Duras. Puis, on aura le droit, dans l'épisode qui suit, à un extrait de l'atmosphère particulière dont je viens de vous parler, de Indiana Song, réalisé par elle-même, Madame Duras. Et enfin, la reprise, ou du moins un large extrait de la reprise qu'une jeune Suissesse qui s'appelle Léa Marie Fries fait de la chanson tirée du film immortalisé par Jeanne Moreau, qu'on a entendu également en ce début d'émission. Vous me suivez ? Je pense.
« Elle marche pendant des jours sur les talus, les quitte, traverse l'eau, marche droit, tourne vers d'autres marécages plus loin, les traverse, les quitte pour d'autres encore. C'est encore la plaine du Tonlé Sap, elle reconnaît encore. Il faut apprendre que le point de l'horizon qui vous porterait à le rejoindre n'est sans doute pas le plus hostile, même si on le juge ainsi, mais que c'est le point qu'on ne penserait pas à juger du tout qu'il l'est. Tête baissée, elle rejoint le point le plus hostile de l'horizon, tête baissée. Elle reconnaît les coquillages dans la vase, ce sont ceux du Tonlé Sap. Il faut insister pour qu'à la fin, ceci qui vous repousse demain vous attire. C'est ce qu'elle a cru comprendre que sa mère disait en la chassant. Elle insiste, elle le croit, elle marche, elle désespère. Je suis trop petite encore, je reviendrai. Si tu reviens, dit la mère, je mettrai du poison dans ton riz pour te tuer. Tête baissée, elle marche, elle marche.
Quelle histoire, quel amour. On dit qu'il a tout quitté pour la suivre.
Après une réception, il reste à quelques intimes.
La passion aussi, quelquefois.
Vous le recevez ?
Ces suicides d'Européens qui augmentent avec les familles, quand ils ne souffrent jamais. Quelque part en soi, cette culpabilité de l'Occident.
C'est absurde, bien sûr.
Shanghai, vous avez vu les photos du bombardement ?
Oui. La première tentative.
Les Japonais qui continuent d'avancer. Ils sont
à cause d'un enfant mort, abandonné par sa mère, une mendiante du Nord, dans le parc de l'administration centrale,
et sur
devant sa chambre.
J'étais partie, moi. J'écoutais. C'est vraiment une très belle voix, une belle reprise de Léa Maria Fries, qui est une jeune Suissesse, je vous le disais, qui a repris cette chanson tirée du film. Chanson immortalisée par Jeanne Moreau. Le film, on parle bien de India Song. Et voilà. Et puis, elle dit, Madame Fries, au sujet de cette œuvre-là, quelle œuvre magnifique, je voulais lui rendre hommage tout en y apportant ma touche personnelle. Pour moi, qui suis originaire de Suisse alémanique, ce n'était pas facile de me l'approprier. Je l'ai joué au piano, j'ai regardé le film sans son, je voulais y apporter ma touche personnelle. Pour en finir avec Marguerite Duras, L'amant, on peut difficilement passer à côté, dans un enregistrement qui date de 2020 et qui a été lu par la comédienne Juliette Binoche. Vous savez, ce récit d'initiation amoureuse très, très troublant entre une jeune fille et un homme, bien évidemment, tout ça se passe dans l'Indochine coloniale entre les deux guerres. On va écouter un extrait tout de suite de cet amant, musique de Gabriel Yared, et c'est lu, je vous le rappelle, par Juliette Binoche.
Thank you.
Je me souviens des cours de comptabilité pour mon petit frère, de l'école universelle tous les ans, à tous les niveaux. Il faut rattraper, disait ma mère. Ça durait 3 jours, jamais 4, jamais, jamais. On jetait l'école universelle quand on changeait de poste, recommençait dans le nouveau. Ma mère a tenu 10 ans. Rien n'y a fait. Mon petit frère est devenu un petit comptable à Saigon. L'école Violet n'existant pas à la colonie, nous lui devons le départ de mon grand frère pour la France. Pendant quelques années, il est resté en France pour faire l'école Violet. Il ne l'a pas faite. Ma mère ne devait pas être dupe. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait séparer ce fils des 2 autres enfants. Pendant quelques années, il n'a plus fait partie de la famille. C'est en son absence que la mère a racheté la concession. Terrible aventure. Mais pour nous, les enfants qui restaient, moins terrible que n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit du chasseur. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, mais je ne l'ai pas cru. On m'a dit aussi que c'était la réflexion dans laquelle la misère plongeait les enfants. Mais non, ce n'est pas ça. Les enfants vieillards de la faim endémique, oui. Mais nous, non. Nous n'avions pas faim. Nous étions des enfants blancs. Nous avions honte, nous vendions nos meubles, mais nous n'avions pas faim. Nous avions un boy et nous mangions. Parfois, il est vrai, des saloperies, des échassiers, des petits caïmans. Mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui. Et parfois aussi, nous les refusions. Nous nous permettions ce luxe de ne pas vouloir manger. Non, il est arrivé quelque chose lorsque j'ai eu 18 ans, qui a fait que ce visage a eu lieu. Ça devait se passer la nuit. J'avais peur de moi, j'avais peur de Dieu. Quand c'était le jour, j'avais moins peur, et moins grave apparaissait la mort. Mais elle ne me quittait pas. Je voulais tuer mon frère aîné, je voulais le tuer, arriver à avoir raison de lui, une fois, une seule fois, et le voir mourir. C'était pour enlever de devant ma mère l'objet de son amour, ce fils, la punir de l'aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère. Je le croyais aussi, mon petit frère, mon enfant, de la vie vivante de ce frère aîné posé au-dessus de la sienne, de ce voile noir sur le jour, de cette loi représentée par lui, édictée par lui, un être humain, et qui était une loi animale, et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur dans cette vie, peur qui une fois atteint son cœur et l'a fait mourir. J'ai beaucoup écrit de ces gens de ma famille, mais tandis que je le faisais, ils vivaient encore, la mère et les frères. Et j'ai écrit autour d'eux, autour de ces choses sans aller jusqu'à elles. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Ce n'est pas vrai, il n'y avait personne. L'histoire d'une toute petite partie de ma jeunesse, je l'ai plus ou moins écrite déjà. Enfin, je veux dire, de quoi l'apercevoir. Je parle de celle-ci justement, de celle de la traversée du fleuve. Ce que je fais ici est différent, et pareil. Avant, j'ai parlé des périodes claires, de celles qui étaient éclairées. Ici, je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j'aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements.
Impossible d'interrompre la magie de la traversée du fleuve sur la musique de Gabriel Yared, extrait de L'amant de Marguerite Duras en livre audio, bien sûr, lu par Juliette Binoche. Alors là, mes chéris, on n'est plus dans le conte de fées. Quoique, les frères Grimm, figurez-vous qu'il va y avoir, il y a déjà d'ailleurs, je pense que c'est peut-être déjà sorti, une adaptation littéraire du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, par Stephen King, dont la renommée est au moins mondiale, avec les illustrations de Maurice Sendak. Ça, c'est une collaboration pour le moins inattendue qui réunit deux figures majeures de la littérature qui pourtant ne se sont jamais rencontrées, même au moment d'écrire ce bouquin-là. Bon, on sait qu'ils aiment, eux, réinventer avec audace des histoires qui existent déjà. Et cette histoire d'Hansel et Gretel, telle qu'écrite par les frères Grimm, là, ils ont décidé de s'y plonger. L'auteur de Carrie et de The Shining a dit « Quand on m'a proposé d'écrire une nouvelle version de Hansel et Gretel, j'étais intéressé. C'est en découvrant les illustrations de Sendak que j'ai décidé de tenter l'expérience. Deux de ces images en particulier m'ont marqué. L'une représente la sorcière sur son balai, transportant un sac d'enfants kidnappé. L'autre montre la maison, c'est la célèbre maison en pain d'épices, se transformant en un visage terrifiant », indique Stephen King, le roi de l'horreur. Et en plus, il ajoute « Voilà à quoi cette maison ressemble réellement, un démon malade de péché dont le véritable visage n'apparaît que lorsque les enfants tournent le dos. Et voilà ce que j'ai eu envie d'écrire. » Alors, on va nous contenter de la version plus suave des frères Grimm, quoique, hein, parce qu'au départ, ces contes-là n'étaient pas forcément des contes de fées, loin de là. Mais peut-être qu'ils ne sont pas allés aussi loin que Stephen King et autres compères. Là, on y va avec la version originale, lue par deux beaux, grands artistes, comédiens français, Robin Renucci et Marlène Jobert.
Les deux enfants avaient si faim qu'ils n'avaient pas pu s'endormir et avaient entendu ce que la marâtre proposait à leur père. Gretel se mit à pleurer des larmes amères.
C'en est fait de nous.
Du calme, Gretel, chuchota Hansel. Ne t'en fais pas, je trouverai un moyen de nous tirer d'affaire. Et dès que les parents s'endormirent, il se leva, enfila ses habits, ouvrit le bas de la porte et se glissa à l'extérieur. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs devant la maison étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en jeta dans ses poches autant qu'il le put. Puis il rentra dans la maison. « Aie confiance, chère sœur, et rendors-toi tranquillement. Le ciel ne nous abandonnera pas. » Et lui-même se recoucha.
Elle craignait qu'il se perde. Le père assura qu'il leur suffirait pour y arriver de toujours bien suivre le lit du torrent. Alors, après bien des hésitations et des larmes versées, ils décidèrent de les laisser partir. Le lendemain, donc, le bûcheron et sa femme accompagnèrent leurs enfants jusqu'au torrent. La mère leur tendit son dernier pain et le père leur recommanda à nouveau de bien suivre le cours d'eau et surtout de ne jamais s'en écarter. Les enfants sentirent alors quelques inquiétudes. Gretel frémit. Hansel essaya de la rassurer. «
Ne t'en fais pas, petite sœur.
D'ici le coucher du soleil, on va bien s'amuser. »
Ils s'embrassèrent tous avec émotion et les petits s'enfoncèrent dans l'immense forêt. Ils cheminèrent de longues heures et le bruit du torrent toujours les accompagnait. Parfois, ils devaient marcher dans l'eau, car le bord était encombré de buissons touffus. Elle était froide et ils finirent par avoir les pieds glacés. Leur marche...
La Conte de Grimm, Hansel et Gretel, divinement lu par Robin Renucci et à l'instant par Marlène Jobert. Tiens, on va rester dans les frères Grimm avec Rumpelstiltskin, autrement dit en français le nain tracassin. Ça vous dit quelque chose? Peut-être plus ça, le nain tracassin que Rumpel machin, qui est un conte populaire allemand au départ, recueilli par les frères Grimm. Et ils ont fait paraître ça dans le premier volume de Contes de l'enfance et du foyer. C'est paru en 1812. L'histoire, c'est un paysan vantard qui prétend que sa fille est capable de changer la paille en or en la filant comme de la laine. Alors le roi fait amener la fille du paysan dans son château. Elle est enfermée. Là, il y a un rouet et il faut qu'elle produise de la paille d'or, sinon elle mourra. Alors la fille du paysan, elle se demande comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Et à ce moment-là, hop, un nain apparaît, le nain tracassin, Rumpelstiltskin, qui lui propose de filer la paille à sa place, à condition qu'elle lui donne en échange. On verra plus tard. Ensuite, la meunière accepte l'aide du magicien et elle, à deux reprises, elle produit toujours du fil et le nain, à deux reprises, lui fait promettre de donner en échange de ses services, quoi donc, son fils premier-né, la fille du paysan, qui est devenue reine parce qu'entre-temps, le roi est tombé en amour, oublie l'accord et le nain revient la voir et lui réclame son dû. Elle refuse. Et à un moment donné, il est fou de colère, le nain. Alors il se met à taper des pieds avec une telle force qu'il passe à travers le plancher et qu'il disparaît pour toujours. Voici. Dans le cadre de la série des livres audio « Les contes interdits », un extrait de Rumpelstiltskin, revu et corrigé par Maud Ruxul, ça ne s'invente pas, et lu par Marie-Annick Blais. Ne tournez pas le bouton, rien de sanglant, je vous le jure, mais ambiance.
Ivana et Nam ne se doutaient pas que leurs petites escapades crépusculaires les mèneraient à fuir toute leur vie. Née d'un paysan roumain et d'une boulangère russe, Ivana resplendissait par son physique de femme délicat et frêle. Fin comme les tiges d'une certaine plante surnommée « cheveux d'ange », ses cheveux platines dominaient des yeux bleu pâle qui possédaient la principale vertu de pacifier les tempéraments bilieux. Ivana avait emprunté à son père la bienveillance et à sa mère la tendresse. Or, la famine était un véritable fléau pour bon nombre de compagnons roumains. S'absenter pour cause de maladie était inconcevable. Un jour où le flamboiement des feuilles embrasait le ciel, son pauvre père tomba gravement malade. Ce soir-là, l'astre de l'espoir, comme il l'aimait surnommer le soleil, descendait derrière la lointaine montagne et la tête des vaches commençait à ployer sous le poids de leurs larges et énormes cornes. Ces signes indiquaient, comme tant d'autres, que la journée était bel et bien achevée et que l'heure de se remplir la panse avait sonné. Cependant, Joséphina, la mère d'Ivana, s'inquiétait. Son mari ne rentrait pas. Croyant plus à un simple contretemps qu'à un grave malheur, Joséphina envoya sa fille au champ. Le hurlement d'Ivana, déchirant, vibrant de détresse, avait parcouru des centaines de mètres et abouti droit dans les entrailles de Joséphina. Elle savait maintenant. Un horrible sort s'était abattu sur l'amour de sa vie. L'un de ses pires cauchemars avait triomphé. La suite avait cloué son père au lit durant une semaine, plus amaigri, blanc et flétri que jamais. 7 jours pendant lesquels Ivana et sa mère devaient redoubler leur corvée, sans laisser les racines de la désolation s'entortiller à leurs chevilles et les entraîner dans les bas-fonds d'une tristesse irrémédiable et d'une misère inextricable. À la date fatidique, quelque part dans un octobre froid et sec, une aube funeste s'était dressée au sein de pipiments d'oiseaux festifs. L'âme du pauvre homme s'était envolée. Une rafale symphonique avait agité les rameaux du vénérable pin sylvestre sous lequel Ivana avait l'habitude de traire les vaches tous les matins. La jeune fille avait levé la tête vers la cime verte de l'arbre, en même temps que la bourrasque retombait en douce brise sur son beau visage. Lorsqu'elle avait fermé les yeux, ses sourcils s'étaient contractés de chagrin et une larme avait dégringolé sur sa joue. Une intuition lui avait murmuré une vérité qu'elle n'eût jamais voulu entendre. Son père était mort. Sa vue s'embrouilla et sa main, sans aucune force, avait glissé le long du pichot, plein de vie, de l'animal. Âgée à l'époque de 18 ans à peine, Ivana avait dirigé son regard au loin, dans la grange où la silhouette de sa mère apparaissait sporadiquement d'une fenêtre à l'autre. Elle s'affairait à nettoyer l'enclos des bêtes, comme y veillait religieusement son père, adoré tous les jours, depuis une trentaine d'années. D'abord, Ivana avait voulu s'assurer que son pressentiment ne l'avait point trahi. « Peut-être m'a-t-il menti ?» avait pensé la demoiselle. Elle puisa alors en elle la force de se mettre debout et de marcher d'un pas désenchanté en direction de la maison, plus précisément de la chambre du malportant. Oui, elle souhaitait plus que tout que l'âme de son père n'eût pas sombré dans le trépas.
Très bien lu hein, par Marie-Annick Blais. C'est aussi un multivoix. Il y a Marjolaine Lemieux dans ce livre-là, Rumpelstiltskin, Dominique Lorange et Nicolas Savard-L'Herbier. Voilà pour les frères Grimm. Et puis voilà pour cette première demi-heure de l'émission des livres plein les oreilles que j'anime avec vous depuis maintenant un peu plus de 10 ans et pour vous à chaque semaine. Restez des nôtres en seconde partie. Qu'est-ce qu'il va y avoir en seconde partie? C'est à mon tour de célébrer Jeannette Bertrand. Comment vous saviez pas qu'elle venait de prendre 100 ans? Ben là, je sais pas sur quelle île déserte vous vivez. Allez, ne nous lâchez pas. Moi, je vous lâche pas en tout cas. Je suis heureuse de vous apprendre, vous pour qui le livre audio n'est pas un luxe mais une nécessité, que le livre « 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse » de Jeannette Bertrand est désormais disponible grâce au CAEB. D'ailleurs, je devais recevoir aujourd'hui Faline Bobier qui devait nous en parler, puis Faline a eu un empêchement, mais nous allons la retrouver bien sûr bientôt à cette émission, ce qui ne m'empêchera pas, et elle l'a bien compris, de vous présenter « 100 ans d'amour » parce que c'est un livre qu'on a évidemment très hâte qu'il soit en livre audio. En ce qui concerne le commercial, il va falloir attendre encore un petit peu. Je ne sais pas d'ailleurs s'il sera enregistré au Québec ou non, mais pour l'instant, il existe. Il a déjà été enregistré dans les studios de l'INCA pour le CAEB et pour vous qui en avez peut-être besoin si vous passez par le SQLA, le Service québécois du livre adapté. Alors, comme je le disais en préambule, elle a eu 100 ans le 25 mars dernier, Jeannette Bertrand, et ça a été un fait dont on a parlé beaucoup, beaucoup trop, non, parce qu'on considère que cette femme-là a encore des choses à nous dire, et c'est du reste ce qu'elle a fait avec cet essai biographique. Jeannette Bertrand, qui, comme toujours, souhaite briser les tabous qui entourent le fait de vieillir et convaincre que le grand âge, oui, ça vaut la peine d'être vécu et qu'il y a moyen de vieillir en ayant du fun. 100 ans d'amour, ce n'est pas seulement une vision jovialiste de la vieillesse, nous dit Jeannette Bertrand. Bon, elle ne lève pas les yeux sur les tabous qui entourent le sujet, à commencer par l'un de ses plus grands secrets de Polichinelle, l'incontinence. Elle nous dit « Je suis la première à en parler, je trouve ça épouvantable qu'on ait honte de ça, ça n'a pas de sens. Environ 90% des femmes âgées de 80 ans et plus souffrent d'incontinence et personne n'en parle, s'indigne-t-elle. » On va entendre un premier extrait de « 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse » de Jeannette Bertrand.
On est à une époque où il vaut mieux être jeune que vieille. La peur de la vieillesse s'est installée dans plusieurs pays développés, nourrie par la promesse, fournie par les publicités, d'une jeunesse éternelle, et par la crainte de ne pas être traité dignement plus tard. Pendant la pandémie, personne ne voulait vieillir, même pas moi. L'industrie liée à la beauté des femmes, et de plus en plus des hommes aussi, entretient cette peur. Moi qui me pense si fine, j'achète des crèmes de beauté tout en sachant que ça ne marche pas. Mais c'est dur de se voir vieillir. Mon père disait, entre guillemets, « Je suis jeune entre deux miroirs ». Fin des guillemets. La télévision met mes rides en vedette. Depuis mes 80 ans, j'ai un sérieux problème d'identité. Je ne me reconnais pas quand je me vois à la télé. Qui c'est cette vieille-là? Je ne veux pas que ce soit moi. Ce tas de rides sur deux pattes. J'ai peur d'être devenue méconnaissable avec l'âge. Alors le maquillage et la teinture m'aident à me retrouver au temps où j'étais à mon meilleur. Certaines vantent les bienfaits du naturel, tant mieux pour elles. Je n'ai pas leur assurance. Je n'ai pas été préparée à rouiller ni à rider. Si la fontaine de jouvence existait, je plongerais dedans.
Elle nous dit, Madame Jeannette Bertrand, elle dit, vous savez, il y en a qui ne sont pas capables de saisir la chance qu'ils ont de pouvoir vivre aussi longtemps. Ils ne voient que les choses qui vont mal ou qui font mal dans la vie, mais ils ont perdu de vue les petits bonheurs. Elle dit aussi, un marathonien, on l'applaudit. Moi, je suis rendue là, j'ai 100 ans. C'est une fierté pour moi, ça fait 100 ans que j'existe.
Je vous propose un mot pour guider la réflexion, mon mot phare. Entre guillemets, profiter. Fin des guillemets. Je profite de tout. Je suis une profiteuse invétérée du soleil qui me réchauffe, par exemple, moi qui suis de plus en plus frileuse. Je profite de chaque journée du mieux que je peux, de chaque instant. C'est le but de ma vie. Vieillir dans la joie le plus possible. Pour y arriver, je m'acharne à ne voir que le bon côté des gens et des choses. C'est un exercice parfois fastidieux. Pourtant, je persiste. Je pourrais ne voir que les jours tristounets, me gaver de mauvaises nouvelles. Je résiste à la déprime. Je tente de voir la vieillesse non comme une fin de vie inexorablement morose, mais comme un moyen de profiter du temps qu'il me reste. Je me trouve chanceuse d'être en vie, même si parfois elle est faite de déceptions professionnelles ou familiales et de maux physiques. À mes douleurs au dos s'ajoutent celles aux mains qui sont atteintes d'arthrose. Mes bouts de doigts sont insensibles, ce qui rend toute manipulation manuelle pénible. Je peine à saisir la louche pour servir le potage. Je dois demander à mon conjoint d'attacher ma ceinture de sécurité dans la voiture, de me mettre mes boucles d'oreilles, de lacer mes souliers. Je n'arrête pas de lui demander de l'aide. Ce n'est pas toujours facile, ni pour lui, ni pour moi. J'ai une peur bleue des poignées de mains viriles. J'échappe tout. Je ne retiens rien entre mes doigts. Mon écriture manuscrite est illisible. Je m'escrime sur mon clavier d'ordinateur. Je fais 100 fautes de frappe que je dois corriger par la suite. Et je ne peux pas rester plus de 5 minutes debout sans souffrir. Mon corps me lâche petit à petit. Mais j'ai toute ma tête. Vous trouvez que je suis chanceuse? Que tout me sourit? Que je suis une exception? Oui, évidemment, je suis privilégiée, mais je travaille fort pour garder mon esprit en forme.
Je vous rappelle que c'est lu par une personne bénévole de l'INCA et que le livre de Jeannette Bertrand, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse, est maintenant disponible via le SQLA grâce à CAEB. Alors, vraiment, gâtez-vous. En préparant l'émission, je suis tombée Sur une émission qui s'appelle Le Salon dans tes oreilles et qui est en fait un programme qui est présenté sur scène pendant le Salon du Livre. C'était présenté pendant le Salon du Livre à Montréal, animé par Claudia La Rochelle. Et il y avait une rencontre entre Jeannette Bertrand et Joséphine Bacon. La question que Claudia leur a posée est celle-ci. Est-ce que vous vous rendiez compte de l'importance de vos mots au début, quand vous avez commencé à écrire? Réponse.
Au début, moi, j'étais en colère parce que j'étais très tôt en contre l'injustice faite aux filles. Parce que j'étais dans une famille de 3 frères et mes frères avaient tout, l'argent de poche, le droit à prendre l'auto de papa et tout ça. Et moi, mon père me disait, c'est un homme de son temps, là. Il me disait, t'as pas besoin de ça. Tu sors avec un garçon, il va payer pour toi, t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de prendre l'auto. En fait, moi, j'étais rien qu'une fille. Et ça, me faire dire que j'étais rien qu'une fille, la rebelle en moi s'est rebellée. Et elle a pas fini. Je suis encore rebelle. Je suis encore, il faut qu'on prenne plus notre place, encore les filles.
Moi, c'est...
Sans voler la place ouais. des gars, là. Ouais. On veut pas votre place, on veut être à côté, ouais. à égalité. Okay?
Moi, j'étais pas en colère quand j'ai écrit. J'ai écrit parce que... j'ai écrit parce qu'une de mes amies, poète aussi, qui s'appelle Laure Morali, a fait un rêve. Elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle jumelait des écrivains et des poètes québécois avec les Premières Nations.
Ah oui?
Oui, puis là, elle m'a raconté son rêve. Puis chez les Innus, le rêve est tellement important. Puis je trouvais que son rêve était significatif. Mais j'ai dit, il faut que tu le réalises. Tu sais, j'ai dit, c'est un rêve important. Et puis là, elle m'a demandé si je pouvais participer à son rêve. Mais j'ai dit, ben non. J'ai dit, je suis ni écrivain, ni poète. Mais parce que je l'aime beaucoup, j'ai dit oui.
Joséphine Bacon disant « Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas poète ». On sait hein, après ce qu'elle est devenue et on sait à quel point on aime son écriture à Joséphine Bacon et à Jeannette Bertrand qui avait déjà produit « La vieillesse par une vraie vieille hein, » il y a quelques années. Et bien, figurez-vous que ça a été enregistré en livre audio et c'est lu par Jeannette Bertrand. « Au cours de ma longue vie, a-t-elle dit pour le présenter, ce livre, j'ai accumulé des moyens efficaces pour mieux passer les 30 ans supplémentaires que la science nous alloue. Je veux les partager avec vous, ils fonctionnent, j'en suis la preuve. » Extrait.
L'espérance de vie qui s'allonge d'année en année nous fait un cadeau inestimable, 30 ans de plus à vivre, une seconde vie d'adulte. Dans les années 1950, on mourait à l'âge où commence la retraite de nos jours. Vous, les bébés boomers, êtes les premiers humains qui pourront, après avoir travaillé 45 ans, avoir 30 autres bonnes années à vivre. Pensez-y, 30 ans de plus que votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère a profité de la vie. Un bonus, un gros cadeau. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Les boomers, conditionnés par les images désastreuses de leurs vieux grands-parents, ont peur de finir seuls, pas aimés, dépendants, déments, ou isolés des leurs. Alors pour affronter cette peur, ils s'accrochent à la jeunesse dans un déni total. Or, il n'y a pas plus vieux que ceux et celles qui refusent de vieillir. Je vous préviens, je vais employer les mots vieux, vieille tout au long du livre. Je suis vieille. J'ai droit à ce mot autant que les jeunes de 25 ans ont droit au mot jeune. Je suis fatiguée des euphémismes, âge d'or, senior, je suis vieille comme les jeunes sont jeunes. Il y en a pour qui la vieillesse est un naufrage. Moi, j'ai choisi d'être de celles pour qui l'alternative est claire, vieillir ou mourir. Ou bien t'es vieux ou bien t'es mort. Je suis vieille, donc je suis vivante, alors je profite de la vie. Mais à quel âge est-on vieux? On devient vieux quand on devient triste, amer et désabusé, qu'on ne croit plus à rien ni à personne. Il y a des vieux de 20 ans, il y a des jeunes de 90 ans.
La voix de Jeannette Bertrand lisant son propre livre « La vieillesse par une vraie vieille ». C'est paru il y a déjà quelques années en livre audio. Gâtez-vous. J'ai quelques nouveautés pour vous. On y va ? On va commencer avec « Pour ne rien regretter », un roman en coup de poing écrit par Henri Leuvenbruck. C'est lu par Charlotte Campana, une ode à l'espoir et à la liberté, nous dit-on. « Je m'appelle Vera et je voulais vous parler du bruit de la pluie sur la tôle ondulée qui fait drôlement de peine, comme bon souvenir. » À Providence, petite ville perdue dans le grand nulle part, une voix s'élève doucement au milieu du silence, une voix différente, la voix de Vera. La Libre Belgique, dans la Libre Belgique, on a parlé de ce livre en disant « L'auteur brosse un tableau sombre de l'humanité. Heureusement, Vera est là pour apporter de la lumière. » Dans Le Soir, pour ne rien regretter, Henri Leuvenbruck invente un genre nouveau, mélange de thriller, de dystopie et de feel-good. Et puis dans Bibliops, en décembre 2024, on écrivait ceci, chargé d'un climat sombre et inquiétant, l'intrigue débouche sur une utopie futuriste empreinte de merveilleux. L'ouvrage célèbre le triomphe toujours possible de David. De David contre Goliath. Ouais, on a envie de découvrir pour ne rien, voyons, Clotilde. Ah, pour ne rien regretter, on en écoute un extrait.
Une autre fois, elle m'a raconté que le grand frère de la petite fille qui était morte, il s'appelait Bohème, qu'il était le meilleur ami qu'elle et papa avaient eu de toute la vie, que c'était même pour ainsi dire leur frère, et que d'ailleurs, c'était pour le rejoindre en premier que papa avait sauté par la fenêtre sans sommation. Et c'est en mémoire de Bohème qu'on était venu vivre à Providence entre filles. C'était la première fois que quelqu'un me parlait de lui. Et plus tard, j'ai lu ses carnets et j'ai eu l'impression qu'il était mon grand frère à moi aussi. Et il faut avouer que je m'exprime un peu comme lui en mimétisme, sans le vouloir exprès, mais j'en dirai pas plus parce que ça me fait des boules dans la voix et des aiguilles très désagréables du côté du cœur. Tout ça faisait que je connaissais déjà pas mal de gens morts, pour une gamine toute neuve. Parfois, j'avais l'impression de marcher au milieu d'une grande forêt de fantômes, et ça laissait plein de vide à remplir dans la vie de maman. Faut pas croire, ça m'empêchait pas de trouver le bonheur de midi à ma porte. C'est vrai, notre appartement, il était sacrément étriqué à l'intérieur, avec 22,3 mètres carrés, sous pente comprise. Mais à l'extérieur, ma parole, il était très spacieux. Alors je passais beaucoup de temps dans son dehors. J'aimais bien me promener toute seule dans Providence. On est plus souvent d'accord quand on est toute seule. Les gens demandaient à maman pourquoi j'avais pas d'amis. Et alors elle avait l'air de s'excuser en disant que c'était la faute de Monsieur Asperger. Je savais pas qui c'était, ce salaud qui empêchait les petites filles d'avoir des amis. Mais en vérité, ça m'allait très bien comme ça, merci beaucoup. Moi j'aimais pas trop quand les autres m'appelaient la gogole. Alors la solitude... c'était pas mal non plus comme vacances. Providence, c'était un peu une ville sinistrose, comme on dit, à cause de la fermeture des usines qui l'avaient rendue riche avant. Dans les années glorieuses, ils avaient construit très vite des palanquées de maisons en bois toutes pareilles, sur des terrains en rectangle bien alignés, pour accueillir les vagues de travailleurs immigrés à bas prix. Et quand on n'avait plus eu besoin d'eux, et qu'ils étaient devenus des chômeurs assistés, et qu'on leur avait demandé de rentrer dans leur pays merci pour le service, les maisons avaient pas mal perdu de leur superbe soudain. Mais moi, je l'aimais bien quand même, ma ville sinistrose. J'ai toujours aimé les vieilles choses un peu cassées, parce qu'au moins, elles ont une histoire. Les gens, c'est pareil. Mes plus chouettes souvenirs de quand j'étais petite, d'avant le collège, c'est ceux du Vermillon, le grand fleuve qui traversait la ville. J'ai jamais compris pourquoi les riviérologues avaient décidé de le baptiser Vermillon, alors que l'eau, elle était verte tendance dégueulasse. Peut-être qu'un jour, elle avait été rouge, qui est le vrai nom de Vermillon. Ou peut-être que « Millon », ça veut dire dégueulasse en langue ancienne. Je sais pas. Toujours est-il que ça me gênait pas, moi, que le fleuve soit un peu troublé lui aussi. Dès que je pouvais, j'allais sur la rive nord, dans l'antique lavoir abandonné, qui faisait 17 pas de long et un peu moins de 8 de large, et qui était tellement en ruine que monsieur le maire avait mis un panneau dessus pour dire qu'on n'avait pas le droit d'aller jouer dedans pour danger de mort. C'était vraiment une aubaine, parce que comme ça, j'étais sûre que le tout venant viendrait pas m'y déranger. J'avais un rituel sacré quand j'allais au lavoir, et j'oubliais jamais de le faire. J'appelais ça la cure verathermale, parce que c'est bien connu que l'eau, même bigrement croupie, ça a des vertus thérapeutiques qui sont admises par l'Académie de médecine.
Extrait de « Pour ne rien regretter » d'Henri Lovenbrook, lu par Charlotte Campana. Ça vient de sortir. Vous aimez le plus noir que noir? Très bien, moi aussi, dit Stephen King, qui nous propose « Plus noir que noir », 12 nouvelles qui vous plongeront dans les tréfonds les plus sombres de la vie, c'est ce qu'on nous dit, au sens métaphorique comme au sens propre. Parmi les sujets qui sont traités dans ces 12 nouvelles-là, un secret bien gardé qui est à l'origine du talent de deux artistes, un flash psychique sans précédent qui bouleverse de manière catastrophique l'existence d'un homme, un veuf éploré qui se rend en Floride et reçoit un héritage inattendu mais accompagné d'importantes obligations, un vétéran du Vietnam qui répond à une offre d'emploi, etc. etc. Ce qu'en disent quelques lecteurs parmi ceux qui l'ont lu et ou écouté. Ce n'est pas le roman le plus noir que j'ai lu, c'est pas le plus effrayant non plus, mais c'est agréable de retrouver certains personnages, de retourner en arrière, de replonger dans le récit de Cujo par exemple, ou de retrouver Dumaquet. Un autre dit, ou une autre, je ne vais pas vous raconter chacune des histoires pour vous prouver que je l'ai lu, d'autres le font si bien à ma place. Oui, c'est tout le bon sens du livre audio. Et puis je vous dirai simplement, nous dit un troisième, que c'est du Stephen King, oui. Il a vieilli, ça tombe bien, moi aussi. Oui, ces histoires ne sont pas les plus noires que la terre ait portées, bien que. Mais quel plaisir de le lire, quel plaisir de rencontrer des personnages si inquiétants. Et je vais, avant de laisser la place à un extrait d'une de ces nouvelles, l'extrait de Plus que noir de Stephen King, quelques mots du maître en question. Un immense merci à vous, chères lectrices et chers lecteurs, de me permettre de pénétrer dans votre imagination et vos terminaisons nerveuses. Vous voulez du plus noir encore, tant mieux. Moi aussi.
Rose Crawford possédait de solides références, j'avais vérifié. Elle avait écrit des articles, essentiellement des portraits de personnalités, pour une dizaine de publications, surtout locales ou régionales, Yankee, Down East, New England Life, mais aussi nationales, dont un reportage sur la misérable ville de Derry, publié dans le New Yorker. Concernant Laird Carmody et Dave Laverdière, il me semblait qu'elle avait trouvé un angle intéressant. L'idée lui était venue en survolant des articles sur mon père et oncle Butch, et elle voulait creuser ce sillon. Deux hommes originaires de la même petite ville du Maine, devenus célèbres l'un et l'autre dans deux domaines culturels différents. Mais il n'y avait pas que cela. Carmody et Laverdière avaient connu la gloire après 40 ans, à un âge où la plupart des hommes et des femmes ont renoncé à leurs ambitions de jeunesse. Et se sont installés dans une routine, comme l'a dit papa un jour, pour commencer à la meubler. Rousse souhaitait explorer cette coïncidence improbable, à supposer qu'il s'agisse d'une coïncidence.
« Il y a forcément une explication !» demanda papa quand j'eus fini de lire la lettre de Madame Crawford. C'est ce qu'elle sous-entend. Je suppose qu'elle n'a jamais entendu parler des frères jumeaux qui gagnent le gros lot à la loterie le même jour, chacun dans son état respectif.
En l'occurrence, il ne s'agissait peut-être pas forcément d'une véritable coïncidence, dis-je. Si on part du principe, évidemment, que tu ne viens pas d'inventer cette histoire à l'instant. Je lui laissai le temps de se défendre, mais il se contenta de m'adresser un sourire qui pouvait signifier n'importe quoi, ou rien. Alors j'insistais. C'est vrai, quoi. Ces jumeaux ont peut-être grandi dans un foyer où le jeu tenait une grande place, ce qui rendrait la chose un peu moins improbable, non? Et que fais-tu de tous les tickets perdants qu'ils avaient achetés avant?
Je ne vois pas où tu veux en venir, Marc, répondit-il, toujours avec ce petit sourire en coin. Et je me demande si tu le sais toi-même.
Je dis juste que je comprends pourquoi cette femme s'intéresse au fait que deux gars comme Dave et toi, originaires de Nulleparville, ont connu le succès au milieu de leur existence. Je levais les mains devant mon visage comme si j'encadrais un gros titre de journal. Serait-ce le destin ? Mon père réfléchit en massant les poils blancs de sa barbe naissante sur sa joue creusée de rides. Je crus réellement qu'il allait changer d'avis et accepter cette interview. Mais il secoua la tête. « Écris-lui une de tes gentilles lettres pour lui dire que je décline sa proposition et souhaite-lui bonne chance pour la suite de sa carrière. » Ce que je fis. Toutefois, quelque chose me frappa dans le regard de papa. Le regard d'un homme qui aurait pu dire un tas de choses sur la manière dont son ami Butch et lui avaient connu la gloire et la fortune, et qui préférait ne pas les dire, qui choisissait, de fait, de faire corps.
La voix de Guillaume Orsa lisant un extrait d'une des nouvelles de Plus noir que noir de Stephen King. Enfin, dans le domaine des nouveautés, Tout le monde aime Clara de David Fuenquinos, lu par François Hatt. Faut pas s'attarder sur le titre, on va pas beaucoup parler de Clara dans ce livre-là, mais bien plutôt d'un écrivain raté. C'est un livre qui parle de désillusion, de rupture, de chagrin, chagrin d'amour, du temps qui passe, du sens de la vie et de spiritualité. Extrait de Tout le monde M. Clara de David Fuenquinos.
Quelques mois plus tard, il rencontrerait une femme lors d'un séminaire. Elle travaillait dans le même groupe que lui. Ils parlaient une langue commune. Mais il pensait à Marie, encore et toujours à Marie. Il arpentait fiévreusement le royaume de leurs souvenirs. Un royaume subitement teinté de perfection, comme si le temps éradiquait les errances affectives pour ne laisser place qu'à une narration choisie, celle de la joie. Il se réveillait parfois la nuit en revivant le bonheur effrayant de certains hivers. C'était une douleur presque insoutenable dans sa poitrine. Marie adorait renifler son cou le soir, juste avant de dormir. Cette étrange pratique, qui l'avait souvent gêné, lui manquait à en crever maintenant. Il y avait la conviction que jamais il ne pourrait ressentir la même chose pour une autre femme. Marie demeurerait à ses yeux la définition même, le nom du sentiment amoureux. Les années passèrent et la tension au sein de l'ancien couple restait intacte. Il semblait peu envisageable de passer à nouveau des moments à trois. C'était la seule chose qui manquait à Clara, cette mythologie des parents réunis. Elle se sentait proche de chacun d'eux pour des raisons différentes. Son père était doux et prévisible, sa mère avait davantage de folie en elle, mais une folie amusante. Quelques mois auparavant, Alexis avait rencontré Florence chez des amis communs. L'histoire paraissait sérieuse. Marie était plutôt discrète sur ses relations. Plusieurs hommes avaient fait de courtes apparitions, mais on n'en savait pas plus. Elle avait arrêté les tournages et travaillait maintenant dans une société de production. Par le plus grand des hasards, elle avait un jour recroisé Franck dans une rue de Paris. Son cœur s'était arrêté de battre. Pendant des années, elle avait imaginé cet instant et si souvent écrit dans sa tête des monologues pour lui dire toute sa rancœur. Mais lorsque la chose se produisit, elle préféra lui adresser un grand sourire. Elle voulait lui montrer que tout allait bien, ne pas lui offrir le moindre vestige de sa douleur passée. Ils échangèrent quelques banalités comme si de rien n'était, et ce fut tout. Clara estimait que son père aimait encore sa mère. Son incapacité à lui parler en était la preuve. Le silence est toujours éloquent. Florence avait deux fils et esquissait parfois l'idée d'emménager avec Alexis dans un élan de famille recomposée. Ils s'étaient organisés pour avoir en même temps leur semaine sans enfants. Ils appréciaient leurs moments ensemble, mais il semblait difficile de construire une histoire sur un rythme bancal. Tous deux blessés par leur passé sentimental, ils vivaient leur couple comme une sorte de convalescence partagée. Il y a des tendresses transitoires de celles qui consolent, avant d'apparaître finalement un peu dérisoires. Alexis pouvait se l'avouer, Il préférait les semaines qu'il passait avec sa fille. Elle venait d'avoir 16 ans, elle était pleine d'énergie, prenait des cours de chant et rêvait de participer à l'émission The Voice. Elle composait des chansons dans sa tête, rêvait en mélodie. Quand elle invitait des amis, le salon devenait le théâtre de chorégraphies improbables et joyeuses. Le papa applaudissait le moindre déhanché, s'extasiait sur des mouvements saccadés, faisait mine d'apprécier des sons qu'il aurait détestés partout ailleurs. Alexis ne cessait de voir encore la petite fille dans l'adolescente en face de lui. Depuis toujours, il filmait les mini-spectacles qu'elle composait pour lui. Après l'accident, il passerait des heures à revoir les images, dans une insoutenable rétrospective.
Tout le monde aime Clara, un extrait en tout cas de David Fuenquinos, lu par François Hatt. Et c'est ce dernier livre et cette dernière nouveauté, puisque ça s'est sorti en février dernier, qui va clore cette émission des livres plein les oreilles. J'espère que vous avez trouvé des mots à votre goût. Je m'appelle Clotilde Seil, qui voudrait remercier son acolyte. J'ai bien dit, il s'agit de Mathieu Tessier qui est en régie à chaque semaine. Et puis, ben, vous, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne lecture par les oreilles. Salut.